sujet extrêmement important, nous l'avons dû aborder, c'est l'obéissance à Dieu. Je vous ai dit que j'ai surtout approché le problème de l'obéissance de l'homme envers le Christ, de la femme, dans le couple, etc. J'ai abordé ce sujet dimanche passé. Bon, maintenant, l'obéissance, c'est bien plus vaste que le problème de couple et de relations personnelles de l'homme, du mari avec le Christ, de la femme avec son mari. C'est plus vaste que ça. Avant le péché d'Adam et Ève, tous les humains étaient dans l'obéissance à Dieu. Pas d'une manière spontanée, d'une manière spirituelle, d'une manière divine. Parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu, et qu'en eux, le Christ agissait. En eux, l'Esprit divin agissait. Et en ayant écouté Satan, ils ont perdu l'animateur de leur obéissance, le fondateur de leur obéissance. Ils ont appris à vivre sans ce fondement, ce rocher de leur cœur, qui les faisait aimer Dieu et obéir par amour. Et ils ont passé à une autre étape. Ils ont eu peur de désobéir. Et Satan joue là-dessus, la conversation avec Ève, hein, c'est la peur de la mort. On n'est déjà plus dans l'amour. Il est en train de d'éplucher, de triturer la conscience de Ève, et puis après, bien sûr, ce sera celle d'Adam. Et toute la conversation tourne sur la peur de la mort, et plus sur l'amour d'obéir. C'est un vicieux. C'est un pervers, Satan. Il a bien eu Ève. Et Ève n'a pas vu venir, en plus Adam a laissé venir. Il n'a pas pris sa responsabilité. Et donc, l'homme est tombé dans la désobéissance, et puis il y a eu tout de suite un chaos entre l'homme et la femme, etc. Et puis il y a eu un des fils qui a tué l'autre, etc. Ça a commencé l'histoire de l'humanité. Suis-je gardien de mon frère, le désir, la haine et le meurtre, et puis tout le reste. Et pratiquement, l'histoire humaine nous amène à voir qu'il y a, à travers les prophètes, des semences, des annonces de Dieu qui amènent quelqu'un, qui amène le Christ, qui est parfaitement obéissant. Donc, Dieu envoie son Fils pour qu'on retrouve le chemin de l'obéissance. Mais de l'obéissance dans l'amour, de l'obéissance dans l'union à Christ, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une obéissance légaliste, une obligeance morale. Ce n'est pas seulement de la moralité, le christianisme. C'est un retour au point de départ, au point de vue original. En aimant le Christ et en ayant le Christ en nous, l'Esprit Saint œuvre pour une obéissance sereine et paisible, douce, bienfaisante, pour soi-même, pour les autres, et qui est glorieuse, qui rend gloire à Dieu. C'est évidemment le sens de l'obéissance. En Jésus-Christ, tout enfant de Dieu a du plaisir à obéir à Dieu. Si vous n'avez pas réellement ce plaisir d'obéir à Dieu, c'est que vous avez un problème dans votre relation avec le Seigneur Jésus. C'est que ça manque de profondeur, ça manque d'authenticité. Il faut se repentir, il faut confesser ce péché à Christ, à Dieu, et demander que Dieu prenne dans sa toute-puissance la direction de votre vie. Et de la mienne aussi. Ne jouons pas avec un christianisme de façade et un méli-mélo, un cœur confus. Celui qui croit en Jésus, il n'y a point de confusion, dit l'apôtre Pierre dans son épître. Alors, l'obéissance est une façon d'avoir une bonne relation avec Dieu, mais aussi c'est une bonne façon de vivre avec les autres, parce que ça va être un point de repère pour les autres, pour retourner vers une vie saine. Dans le psaume 111, verset 10, Dieu dit que celui qui craint l'Éternel a une raison saine. Donc même si les gens ne se convertissent pas à Jésus-Christ, s'ils vous voient aimer Dieu, être en Christ vraiment et obéir, il y a quelque chose qui touche leur raison. Ils vont revenir à une raison saine. Et puis alors après, appel de Dieu pour prendre l'engagement aussi. Pour se donner à Christ, se donner à Dieu, pour laisser Christ nous diriger, nous saisir. Quand on voit le cas de l'apôtre Paul, ou même d'autres, c'est clair dans l'histoire que un changement complet peut être fait par le Seigneur Jésus. Donc l'obéissance est possible, même chez le plus crapuleux. Je pense que je vais devoir, par la force des choses, parce qu'il y a quelqu'un que j'ai aidé ici il y a 30 ans, et qui est passé souvent ici pendant 3-4 ans, et puis qui maintenant est en prison pour une faute grave, et bien pratiquement, et qui va passer en jugement, il est probable que je vais devoir retourner en prison. Bon, bah, pratiquement, je connais ça, hein, c'est pas un monde marrant, mais aller en prison, c'est un défi. C'est un défi, parce que vous savez, c'est un repère de démons, les prisons. C'est pas seulement une prison pour les humains. Et il y a... c'est un défi, parce qu'il faut y aller avec la seule fois que le Christ peut faire quelque chose là. Là, c'est net, on sait bien qu'on ne pourra rien faire soi-même. Ben, je vais dire maintenant, dans ce monde, c'est quasiment la même chose, le sentiment, depuis quelques années... il n'y a pas moyen de faire quelque chose, si ce n'est le Christ qui le fait. Nous sommes ses serviteurs. Donc l'obéissance du serviteur, l'obéissance du disciple de Jésus. J'en viens là, c'est ça que je voudrais aborder. D'abord, regardons dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19. Après ce préambule, j'ai trois points à aborder. C'est tout ce qu'il y a eu comme loi, donnée par Dieu à travers Moïse et les prophètes, et les psaumes, et tout. Et tout ce qu'il y a, qui est possible comme obéissance à travers le don de l'Esprit-Saint. Et puis, je pense les règles civiles, mes amis. Parce que c'est pas le tout de dire « je vais être un chrétien gentil ». Il y a des règles civiles à respecter. Alors, dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Regardez bien. Donc, obéir. Obéir. Mettre en acte les commandements divins. Je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, évidemment, le grand en question, c'est Jésus-Christ. Hein ? Les petits, ceux qui sont petits, ceux qui ont dérogé, c'est souvent, en premier lieu, les hommes qui parlent de Dieu tout le temps, à tout bout de champ, qui ont des responsabilités spirituelles. Dans la plupart des cas, une grosse majorité, et tous ceux qui représentent des systèmes religieux, qui parlent de Dieu, finissent par trahir. Il n'y a plus qu'une soif de rester en place et d'avoir un pouvoir sur les consciences, souvent. De prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé puisqu'ils ont tué Jésus. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est la même chose pour tous les ténors religieux, vous faire attention. Le plus grand, c'est toujours Jésus-Christ. Alors, évidemment, je voudrais bien qu'on aille dans première épître de Timothée, chapitre 1. Versets 5 à 11, vous allez voir, pour situer tout de suite, pour nous chrétiens, où est la place de la loi. Mais sans la mépriser, aucunement. Trop souvent, chez nous chrétiens, il y a eu un laisser-aller, il y a eu du rigorisme parfois à certaines époques, mais un laisser-aller épouvantable, et on pense que tout vient de spontané, comme ça l'obéissance, c'est spontané. On est tous libres, hein. Mais c'est un peu facile, ça. C'est un peu facile. Dieu a donné des cadres, des ordonnances, des lois, et ce n'est pas tout à fait biblique. Hein. la spontanéité. Première épître de Timothée, chapitre 1, versets 5 à 11. Le but du commandement, donc des lois, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc la disposition pour obéir, c'est celle-là. Hein? Charité, cœur pur, bonne conscience, foi sincère. Imaginez, hein? Déjà, les conditions qu'il faut pour obéir à Dieu. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Donc, l'orgueil, la vanité, puis des tromperies religieuses. Hein? Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. C'est dur, hein, ce que l'a dit Paul. Mais je suis certain, c'est comme ça maintenant. Hein? Moi, j'ai été à un enterrement en semaine, mais franchement, après l'enterrement, dans l'église, les gens, le troupeau est encore perdu. Hein? Le troupeau est perdu. Le troupeau n'est nulle part. Hein? Parce que ce qui est dit là est dit certainement sincèrement. Mais on veut être sincèrement égaré, sincèrement dans l'erreur. Sincèrement dans un discours qui n'est pas celui que Dieu a retenu, que Jésus a retenu s'il avait pu parler là. Nous n'ignorons pas que la loi, et on s'y fait prendre, hein, c'est typique dans notre région, mais je pense autre part aussi, la pommade, ça plaît. Le mirage. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Donc la loi, et on va voir après ce que c'est, n'est pas faite pour sauver. Le juste est sauvé. Il est sauvé par le sang de Christ à la croix. Il est pardonné de ses péchés. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Il a reçu l'Esprit Saint. Il est travaillé par la grâce de l'Esprit Saint. Et il est conduit par la parole de Dieu. S'il est vraiment un enfant, il lit la parole de Dieu, il se nourrit là où l'Esprit Saint parle. Et pratiquement, la loi n'est pas sa référence première. Mais il la respecte. Alors, la loi est faite pour quoi ? Mais simplement, comme pour tous les mauvais chauffeurs de voitures, qui ne regardent jamais à rien, c'est un peu comme le tableau de bord avec tous les voyants. Oh zut, il y a mes plaquettes de frein sont usées. Oh zut, il manque de l'huile. Oh zut. Oui, oui, parce qu'on n'ouvre jamais le capot, on ne va jamais y voir, on ne fait pas l'entretien régulier, on attend toujours que ça finisse de travers. Eh bien, pratiquement, le tableau de bord, c'est la loi. C'est clair, continue comme ça, tu coules ton moteur. Continue comme ça, un carrefour, tu ne pourras pas t'arrêter, ça sera collision. Hein? Et heureusement qu'il y a un contrôle technique, parce que si les gens avaient regardé toujours à leur voiture, on n'aurait pas créé le contrôle technique obligatoire. Et on n'aurait pas créé les gendarmes au bord de la route pour regarder l'état des pneus, etc., etc. Donc c'est clair, l'homme a besoin de règles, de lois. Eh bien, dans son cœur, il a besoin de cadres, de lois. S'il n'a pas donné sa vie à Jésus, s'il n'est pas conduit par l'Esprit Saint, la seule chose, c'est la loi. Pour qu'il arrive à vivre un peu avec les autres, convenablement, et dans des limites saines. Alors, la loi n'est pas faite pour le juste, donc bien sûr, pour la personne qui est sauvée, qui est en Christ, qui obéit à Christ, hein, je dis bien, hein. Mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Ah, purée, il y a un beau lot, hein, un sacré ramassis là, et vous voyez, la loi est faite pour ça. Pourquoi est-ce qu'elle est faite pour ça ? Ah, ah, ah. Eh bien, quand on rencontre donc des gens, parfois, on leur parle de Jésus directement. Ben oui, oui, parce qu'on pense que c'est Jésus le plus important. Mais je dis, j'en ai pas besoin, moi, de Jésus. Je suis bien comme je suis. Mais si on leur dit, est-ce que tu sais respecter des telles et telles règles ? Alors on commence à mettre le doigt dessus et on va les déranger. Et ils vont se sentir dérangés, peut-être même angoissés. Et à ce moment-là, bien sûr, vous aurez éventuellement des réactions agressives ou une fuite. Mais vous verrez aussi des gens qui disent « Tu as raison, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. » La loi est faite comme un révélateur. La loi est faite pour montrer à l'homme qu'il n'est pas en ordre. Et évidemment, cette loi-là, elle peut avoir un bon effet chez certaines personnes. Regardons dans Romains chapitre 7, verset 12. Romains chapitre 7, verset 12. Chez qui la loi peut-elle avoir un bon effet? Ben, c'est simplement celui qui accueille l'amour de la vérité. Tout d'un coup, il commence à aimer ce que l'autre lui dit et qu'il dérange. Et il commence à aimer l'amour de la vérité. La vérité passe aussi par la loi. Alors, Romains chapitre 7, verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ici, Paul parle à des chrétiens. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ça va? Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché. Afin qu'il se manifestât comme péché en donnant la mort par ce qui est bon. Donc là, par la loi, le péché me donne la mort. Pourquoi? Parce que quand j'ai des règles, je me rebelle. Et je commence à faire des choses pires qu'avant. C'est dans la nature de l'homme de s'opposer. Et par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. L'effet du commandement, parfois, touche. Quand on parle des commandements de Dieu, à certains cœurs, ils sont ouverts, ils vont avoir l'amour de la vérité. Mais souvent, c'est le contraire. Ça va développer en eux un esprit rebelle, de rébellion, et il y en a peut-être même ici, dans la pièce, qui, parce que les lois de Dieu ont été dites, se jettent dans le péché. Et ce qu'il y a, à un moment donné, dans la conscience, il faut qu'il apparaisse quelque chose. Tu es condamné. Tu es condamnable. Tu es hors de mon chemin. Si j'envoie mon fils demain, tu n'es pas repris. Tu es rejeté, tu iras en enfer. Là, il devient condamnable au plus haut point. La personne prend conscience qu'elle est condamnée. Et ça, la loi a quelque chose de bon dans ce sens-là. C'est qu'elle montre, c'est comme le miroir, quand j'ai la rougeole et la rubéole, elle montre les boutons que j'ai. La loi le montre. C'est pour ça que évangéliser n'est pas si simple que ça. Parce que on provoque les réactions, hein. Et bon, il faut être courageux pour évangéliser. Il faut être courageux pour tenir tête à ce monde. Alors, Romains chapitre 3, verset 20. Romains chapitre 3, verset 20. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc, on n'est pas pardonné de ses péchés parce qu'on cherche à obéir à la loi. On n'est pas pardonné. La loi ne nous donne pas le salut, mais elle donne autre chose, la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi, quand je l'écoute et que je me rends compte de ce que Dieu a demandé, je me rends compte que je suis dans le péché. Je prends connaissance de ce que je suis, d'où j'en suis. Et évidemment, la loi a donc une fonction. Elle a donc une fonction. Et une bonne fonction, pas une mauvaise. Alors, quelle est donc cette loi que Dieu a donnée? Prenons Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, c'est au début de la Bible, hein, dans les premiers livres de la Bible. Le troisième livre, hein, Genèse, Exode, Lévitique. Bon, Lévitique, c'est un livre que pendant longtemps je n'ai pas lu. Oui. Pourquoi? Parce que ça parle de sacrificateurs, de rites, etc. Dans le parvis, dans ce qu'on appelait le temple, mais en forme de toile. Mais bon, il n'y a pas que ça, figurez-vous. Loin de là. Fondamentalement, le Lévitique fait un appel à la sainteté. Lévitique 19. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Ah ah! Voilà le fondement de tout le chemin du peuple juif et qui est nôtre aussi. Nous sommes les héritiers de ce peuple. Donc, le premier commandement, il est global. Il nous révèle que Dieu est saint et nous sommes appelés à lui être semblable dans la sainteté. On ne peut pas devenir Dieu, mais on peut devenir saint. Et pratiquement, c'est l'appel fondamental de tout homme. Est-ce qu'on a envie d'apprendre ça à nos bébés, dans nos familles, dès qu'ils naissent? Est-ce qu'on a envie, pendant toute leur éducation, de leur parler de ça et de leur montrer? Est-ce qu'on a envie, dans les écoles, de leur montrer, de leur dire que c'est l'appel fondamental de l'existence? C'est loin de là aujourd'hui. Regardez comme il est malin. Regardez. Ah, il a un bon métier. Ah, il gagne beaucoup de sous. Et puis, ah, il a une belle voiture. Etc. Et pratiquement, ah, il n'a pas de boulot. Oh là là. Oh, il ne réussit pas à l'école. Oh là là. Ah oui, mais quelques années après, il s'est débrouillé. Oui, il est bien quand même. Hein, il est bien quand même. On apprécie les gens sur des choses où Dieu ne donne pas d'appréciation. Dieu donne une appréciation sur la sainteté. Qu'on ait bossé ou pas bossé, qu'on ait eu des diplômes ou pas, c'est pas ça qui nous fera rentrer au ciel. Bien que toutes ces choses sont naturellement importantes dans le quotidien. Alors au verset 18 du même chapitre, chapitre 19, verset 18, « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Ben oui, après le péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui a commencé? Caïn, hein? Pif, paf, boum, Abel étendu par terre. Du sang à terre. Ben oui. Si on ne prend pas le chemin de la sainteté, on en finit là. Tôt ou tard. Si vous n'enseignez pas, vous n'êtes pas en priorité pour enfants, petits-enfants, vos amis, pour tout le monde, un appel à la sainteté, vous pouvez vous attendre à des œuvres mauvaises. Et ça va jusque-là. Oh, mais il est gentil, il n'a pas besoin de Dieu. Il y en a beaucoup qui s'en passent, ce n'est pas nécessaire. Et puis je ne peux pas l'obliger, je ne peux pas lui casser les pieds. Mais il se cassera les pieds tout seul, il se cassera la figure. Le diable s'en occupera. 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Pardon. Retour à l'amour de la sainteté. Retour à l'amour des autres. Qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Jean dans sa première épître? Celui qui dit aimer Dieu, qui ne voit pas et qui n'aime pas son prochain, qu'il voit, est un menteur. Pardon. C'est là. C'est là. Donc, la loi est fondamentale. Regardons où elle est un peu détaillée. Dans Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20. Deuxième livre de la Bible, Exode, chapitre 20. Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vous voyez ce que ça veut dire? C'est absolu, hein? Absolu! Donc, ce n'est pas une vedette de football qui gagne un gros paquet de fric. Ce n'est pas une chanteuse. Hein? Ce n'est pas un président de la République. Ce n'est pas tel ou tel. Ça n'a rien à voir. Seulement Dieu. Le retour, il y a 500 ans, au 31 octobre, que Luther a mis sur les portes de l'église de Wittenberg, Wittenberg en Allemagne. Il ne pensait pas quitter l'église catholique. Il pensait la réformer. Il a mis 95 thèses. Hein? Eh bien, il a commencé par ça. Sola Dei. Seulement Dieu. Sola fidei, seulement la foi. Sola scriptura, seulement l'écriture. On a cherché à l'assassiner. Et, forcément, était devenu un ennemi. Erasme, un siècle et demi avant, avait parlé. On lui avait proposé une place de cardinal en Alsace. pour qu'il se taise. C'est un moine très brillant, très érudit, qui parlait plusieurs langues, qui faisait des conférences, très au courant de la parole de Dieu, en grec et en hébreu. On a voulu le faire taire d'abord par des promotions, puis il a refusé. On a cherché aussi à le zigouiller. Erasme est un précurseur de la réforme. Il a, par toutes ses idées, ouvert les portes pour la liberté de conscience et le retour aux Écritures. Et plein d'autres, plein d'autres. Et donc ici, quand nous voyons ça, c'était oublié en Europe. À l'époque de l'Europe, on construisait Saint-Pierre à Rome, un beau bâtiment avec une grande place en marbre blanc, et pratiquement, il n'y avait plus de sous. Nous sommes au XIVe siècle, il n'y avait plus de sous. Alors, le moine Tetzel a donné une bonne recette au pape. Il a fait tout un catalogue avec, pour rentrer de l'argent. Si quelqu'un a tué, il donnera par exemple 1000 écus. Si quelqu'un a violé, il donnera 800 écus. Si quelqu'un a couché avec sa fille, par exemple, il donnera 600 écus. Tout ça, un catalogue des péchés rachetés par de l'argent. Les quantités d'argent qui sont rentrées à Rome ont permis d'achever tout, de bâtir tout Saint-Pierre. Et Martin Luther était un moine qui collaborait à ça. Il allait d'église en église, de village en village, ville en ville, ramasser les souhaits de son frère. Quand la foudre est tombée sur son frère et qu'il a été brûlé, consommé par la foudre à côté, il est rentré à l'abbaye. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Si c'était moi, je suis en enfer. Il a pris conscience qu'il n'était pas en ordre. Il a demandé une autorisation écrite à son père abbé pour avoir une Bible et la lire, parce que c'est interdit de la lire depuis 1067, hein, par l'Inquisition, et pratiquement le père abbé a accepté. Et il a vu dans Romains, au chapitre 1, que le juste vit par la foi, sola fidei, que l'évangile est la puissance, sola scriptura, seule puissance qui sauve. Et puis, de fil en aiguille, il s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, il a été mettre un papier, il a fait sa manifestation non-violente sur la porte. Mais les autres n'ont pas été non-violents, ils ont été très violents. Et le problème, c'est que plein de gens savaient bien qu'il n'y avait que des mensonges, et se sont mis, ont pris le courant, c'est comme ça qu'est née une grande révolution dans tout le nord de l'Europe, qu'on appelle le protestantisme. Ça n'a pas été tout seul, puisqu'il y a eu 60 millions de morts. La vérité coûte cher. Alors, ici, pour Exode 20, nous voyons que Dieu ne veut pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne feras point d'image taillée, donc, pas de pierre, pas de monument avec des cathédrales, etc., ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, donc, pas de statue d'ange, ou de dragon, ou de toutes sortes de petits démons, là, qu'on trouve dans beaucoup de basiliques, etc., qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elle, tu ne les serviras point. Donc, pas de procession avec des statues. Tu ne les serviras point, tu n'iras pas mettre des bougies et mettre des offrandes. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, ici, Dieu considère que ces actions-là sont des actes de haine contre lui. Et qu'elles ont une retombée jusqu'à 3 ou 4 générations sur les, dans les familles, dans le sens de l'iniquité. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Gardez seulement Dieu, et sa parole est un fleuve de bénédiction. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, ah oui, ni pour faire des guerres, ni pour faire des alliances entre pays, ni pour faire des mariages bidons, parce que c'est simplement des mariages d'argent et des mariages de religion. Hein? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton vin. Ben oui, je me suis tapé sur la main ou sur le pied, je suis sacré, nom de... Et puis je sors le nom de Dieu. Hein? Je sors le nom de Dieu. Dans toutes les intonations possibles. Alors, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, parce que c'est respecter la personne de Dieu. Il y a des égards à l'égard de Dieu. Une déférence. L'Éternel ne laissera point puni celui qui prendra son nom en vain. Attention, les amis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc, platement, il y a un jour où on ne travaille pas, on le consacre à Dieu. Alors, je vais un peu plus loin. Verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, on sait très bien que quand on se marie, on se sépare du papa et de la maman. C'est mis dans la Bible. Hein? Tu te sépareras. Tu feras une seule chair avec ton épouse, etc. Mais il faut rendre honneur. C'est les considérer comme importants, et pas forcément pour suivre leurs idées, pour suivre leurs traditions, mais de marquer du respect. Pas de haine, pas de reproche aux défauts du papa et de la maman. Simplement du respect, de l'honneur. Savoir les visiter, savoir les aider quand ils deviennent vieux. Leur rendre honneur pour la place qu'ils ont tenue, que Dieu leur avait donnée dans ma vie. Alors, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ensuite, tu ne tueras point. Donc là-dedans, tu n'avorteras point non plus. 14. Tu ne commettras point d'adultère. Vous avez dit, et vous savez bien que Jésus, dans Matthieu 5 à 7, il dit, même tu ne convoites pas la femme de ton voisin. Tu ne brûles pas là, comme ça là. Tu as ça dans la peau, tu voudrais bien ci, tu voudrais bien ça là, qui est alentour de toi, pour en faire tes objets sexuels. Eh bien ça, c'est aussi de l'adultère. Comment on peut chasser ça, si ça vient dans mon cœur? Au nom de Jésus, arrière Satan. J'ai reçu Jésus dans ma vie, ça va partir. Si, au nom de Jésus, arrière Satan, ça ne s'en va pas, c'est que ma vie n'est pas encore vraiment Jésus. Alors, il faut se repentir et se présenter à genoux devant Dieu, lui demander, confesser son péché, demander une nouvelle vie à Dieu et la recevoir de lui. Pas une amélioration de notre vie, un renouvellement, régénération de notre vie. À ce moment-là, quand Satan vient avec des pensées pareilles, qu'on appelle fantasmes, qui ne sont que des messages de Satan, c'est pas de la psychologie, c'est des messages de Satan dans notre conscience, on peut dire arrière Satan. Il part. Naturellement, il ne faut pas se contredire 5 minutes après en faisant le contraire. Hein. Alors, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point à la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Là, les 10 commandements. Les 10 commandements sont là. Si on les applique, il y a la paix sur la terre. Hein. C'est clair, il y a la paix sur la terre. Bon, le problème, c'est que à cause du péché d'Adam, on a été vendu à une autre puissance. Adam et Ève, d'abord Ève, puis ensuite Adam. Et Adam portait le chapeau, c'est lui qui portera la responsabilité finale. Ils nous ont vendu, tous ceux qui naîtraient après eux, à Satan, à un autre maître que Dieu. Donc, pour se libérer de ce maître, et se libérer de la puissance du péché qui est en nous, il faut le confesser devant Dieu. Je ne veux plus ce maître. Je ne veux plus cette nature pécheresse. Je veux une autre vie où le péché n'est plus le maître. Je veux un autre maître. Je veux le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. C'est aussi clair que ça. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le veulent. C'est trop simple, sans doute. Pour ça, il faut mettre son orgueil sous le paillasson. Complètement. C'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça. C'est renoncer à soi-même. Celui qui me donne sa vie la sauvera, dit Jésus. Celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. Et oui, moi quand j'ai lu ça à 16 ans et demi, malgré l'avis de mes parents, ils ne voulaient pas l'entendre, ils ne voulaient pas que je lise le Nouveau Testament, j'ai lu ça. J'allais lire dans le champ, piochant les betteraves et les patates et tout. J'ai lu. Ma vie a basculé. J'ai senti qu'il y a quelque chose en moi qui a été complètement différent. Et c'était plus fort que ma volonté. J'avais envie de vivre. Avant, mon existence d'adolescence était un vaste cambouis dans lequel je m'empêtrais. Alors, les amis, l'obéissance est-elle importante ou pas? Premier livre de Samuel, chapitre 15, dans l'Ancien Testament. Que dit-on de l'obéissance et de la désobéissance? Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Chapitre 15, verset 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Donc, les rites religieux ou l'obéissance à la parole de Dieu? Voilà le dilemme. Sans doute qu'on se contentait joyeusement des rites et qu'on n'obéissait en rien du tout à la parole. On faisait semblant. On obéissait à deux, trois trucs et puis le reste, je reste comme je suis. Ça veut dire je m'empire. Verset 23. La désobéissance est aussi coupable que la divination, donc la consultation des démons. Et la résistance à la parole de Dieu n'allait pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Les théraphimes, c'était des osselets, pour, un peu comme les dés, on jouait pour savoir à gauche, à droite, pour dire savoir l'avenir. Donc c'est de l'occultisme aussi. Pratiquement, nous voyons bien que c'est tranché. Dieu n'a pas fait dans le détail, c'est tranché. Et si c'est tranché, c'est pas nous qui changerons les choses. On ne rentrera pas à moitié chrétien au ciel. À moitié saint. Alors, regardons ce que Dieu a promis dans son œuvre de Christ. Puisque l'œuvre de la loi n'a fait qu'une chose, nous montrer qu'on était incapable de devenir saint, à cause, bien sûr, elle était bonne, mais à cause du péché qui est puissant, le péché auquel Adam et Ève nous ont vendu. Alors, Matthieu, chapitre 12, verset 48. Matthieu, chapitre 12, verset 48. Jésus répondit à celui qui lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, donc ça veut dire enseigner, dans la parole bien sûr, il dit « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Donc Dieu lui-même dit « Ceux-là, c'est mes amis, c'est ma famille. » À ceux qui obéissent, « Ceux-là, c'est ma famille. » Les autres pas. Matthieu 11. Matthieu 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Caché ces choses, c'est-à-dire le chemin de la sainteté. Le chemin de la vérité a été dévoilé aux enfants, révélé. Ça les a touchés. Mais qui sont ces enfants? Des petits troubles comme les muelles ici, ou tout quiconque a entendu, a examiné où il en était, a réfléchi, et puis il s'est dit, tout compte fait, c'est la seule bonne voie. Je l'adopte. Cette voie-là, c'est la meilleure pour ma vie. Et pour mon éternité. C'est ça l'enfant. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Matthieu 11, verset 26. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ben oui, Jésus est sans péché. Donc, il n'a pas d'écran devant les yeux pour connaître Dieu son Père. C'est le péché qui nous rend aveugle. C'est pas le péché, on le verrait là, il est là, Dieu. Jésus voyait Dieu à chaque instant, son Père. Il n'y a que tous ceux qui sont alentour de lui qui ne le voyaient pas. Je vais prendre un exemple, par exemple. quand Jésus se manifeste sur le chemin de Damas à l'apôtre Paul, il est en face de lui. Les autres ne voient rien. Mais prenons une autre comparaison. Avant, chaque fois que Jésus circulait et guérissait et parlait de son Père, Jésus le voyait. Il n'est pas empêché, il le voit. Il est avec lui. Imaginez. Et nous, prenons un peu les choses au sérieux, les amis. Il est temps. Dieu n'est pas loin, à 100 000 kilomètres. Vous êtes réunis à deux ou trois. En mon nom, dit Jésus, je suis au milieu de vous. Ne mettez pas sur des petits nuages ou sous terre. Et prenez-le au sérieux, là. Avec le plus grand respect, la plus grande déférence. Le moindre paix que vous faites, il l'a entendu. Le moindre doigt dans le nez, il le voit. Alors tout le reste, il le voit. Il voit tout. Il est là. Ok ? Le moindre euro que vous sortez de votre poche, avec ce que vous faites avec, il sait ce que vous en faites. Le moindre geste que vous faites, dans tous les autres domaines, même les plus intimes, il est là, il le voit. Oh, pour finir, ça ne me gêne pas, c'est pas grave. Ben, ça ne gênera pas Dieu non plus de te mettre en enfer. Tu ne seras pas avec lui. Et si mon péché me gêne et que j'en rougis, il est temps que je change. J'ai encore un peu de temps pour changer, parce que je ne sais pas quel jour je vais mourir. Je peux mourir demain. Il n'y a pas que les vieux qui meurent. Il y a des jeunes aussi qui meurent. Alors, pourquoi mentir à ma conscience, mentir à celui qui me révèle que je dois changer, me repentir? Pourquoi m'opposer? Parce que je suis stupide? Peut-être. Alors, vous voyez ici, toutes choses m'ont été données par mon Père, et alors je vais à la fin du verset, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, le Fils, Jésus, peut révéler, nous montrer qui est Dieu, nous montrer comment il est pour nous dans notre vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de quoi? De notre péché, hein, de nos égarements, hein, de notre aveuglement, hein, de nos démissions, de nos lâchetés, de tout le reste, de nos impuretés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, donc ma parole, c'est oracle en grec, sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. En plus, Dieu vient avec douceur pour que je change de vie. Avec douceur, s'il venait comme un ouragan, avec un feu dévorant, comme c'est mis dans l'Épître aux Hébreux, Dieu est un feu dévorant. Ça y est, un jour, il vient comme un feu dévorant. C'est fini, hein, là. On est à gauche ou on est à droite. Là, pour le moment, il est doux et humble de cœur. Il me sollicite. Il vient à la porte de mon cœur, me dire, tu dois changer. Tu dois écouter ma parole. Je suis patient avec toi. Mais un jour, ça sera fini. Ma patience, ça sera fini. Je viendrai pour juger. En attendant, je suis là pour t'alléger ta vie, te la rendre sereine, te la rendre heureuse. Est-ce que tu veux bien m'accueillir? Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte, j'entrerai, je mangerai avec toi et tu mangeras avec moi. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et il dit ça à une église, parce que le Christ n'est déjà plus dans l'église. Ils l'ont déjà mis, ils sont arrangés pour qu'il soit dehors. L'église chrétienne. Ça peut nous arriver. Évidemment, ce n'est pas que dans l'histoire du premier siècle de l'église. Prenons Hébreux chapitre 8. Hébreux. Moi, j'admire Jésus d'être si patient, si doux, humble. J'admire son amour infini. Mais quand déjà on a fait une exposition biblique à Aide, il y a quelques années, chaque fois qu'on disait que Dieu était avec des lois, des règles, etc., oh là là, il y en a combien qui sont venus s'insurger. Non, Dieu est amour. Oui, il est amour pour le moment. Dans sa patience, il exerce son amour pour me sauver. Mais le jour que le jugement est fini, il n'y a plus qu'une question de vérité. Dieu est patient avec les pécheurs, Mais il ne faut pas marcher sur ses pieds, se moquer de lui. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté, donc de Jésus, que nous sommes sanctifiés. Donc ça revient à ce qu'on a vu dans Matthieu, au chapitre 11, verset 25 à 30. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Donc la volonté de Jésus peut m'aider, parce qu'elle est plus forte que moi, elle est faible ma volonté. Mes tendances sont trompeuses. Je peux m'égarer, je peux être confus. Mais s'il y a Jésus dans ma vie, sa volonté est tellement grande et ferme qu'il peut m'accompagner, me diriger et me transformer. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En plus, à la croix, un seul sacrifice, une seule offrande de Christ est capable de sauver toute l'humanité. Comme un seul péché a pu perdre toute l'humanité, un seul sacrifice saint et pur, celui de Christ, peut sauver toute l'humanité. Et voilà. Verset 14. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont sauvés. Donc, on voit que ce qu'on a vu dans Lévitique, chapitre 19, versets 1 et 2, qu'on a vu dans les 10 commandements, a son accomplissement en Jésus-Christ, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Vous voyez ? Alors, comment ça se passe ? Ben, c'est expliqué après. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, c'est une référence à un texte de l'Ancien Testament, regardez, chapitre 10, verset 7, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. » Donc après, la mort et la résurrection de Jésus. « Je mettrai mes lois dans leur cœur. » Elles ne sont plus seulement sur les lèvres, sur une table de pierre. « Je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Donc il pardonne. Il efface le tableau, lui, le Seigneur. Et là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Le seul sacrifice de Jésus suffit pour la rédemption du monde. Quand j'étais à l'enterrement dans la semaine, à un moment donné, après que tout le monde est passé devant le cercueil, etc., eh bien, nous allons offrir le saint sacrifice de Christ, de Jésus-Christ, pour le salut de l'âme de notre défunt. Donc, on répète ce qui s'est passé au Golgotha sur l'autel, par les mains du prêtre et ses paroles. Invention du 11e, 12e siècle, qui trahit la parole de Dieu qu'il y a ici. Et vous savez qu'au concile de Trente, ils se sont disputés pendant des dizaines d'années, le concile n'en finissait plus, pour supprimer l'épître aux Hébreux de la Bible. Ben oui, ben elle dérangeait tellement. Vous avez mis qu'il n'y a qu'un seul prêtre déjà, qui est dans les cieux, c'est Jésus-Christ, plus besoin d'autres. Or, saint Cyprien de Carthage, en 365, a inventé le prêtre. Il a inventé le prêtre. Contrairement à ce que dit la parole de Dieu. Et puis ça continue. Ça continue. Moi, quand je suis assis là, que je viens à l'enterrement, je baisse la tête. « Pourquoi tu baisses la tête ? » me dit ma fille, qui est là. Et je dis « Je suis en train d'entendre des hérésies. » Je ne lui ai pas dit. Je suis en train et je prie pour tous ceux qui sont là. Parce qu'ils sont trompés. Ils vont sortir avec des grandes oreilles, comme les ânes. Ils sont trompés. Pourquoi est-ce qu'on veut les tromper ? Parce qu'on tient mordicus que tout ce qui a été dit par l'homme passe au-dessus de ce que dit Dieu dans sa parole. Donc ce n'est pas sola scriptura. C'est Dieu qui est en dessous de l'homme. À partir de tous ces dogmes, Dieu est en dessous de l'homme, sa parole est en dessous des paroles des hommes. Et on appelle ça, dans la dogmatique de l'Église catholique, la sainte tradition. Les amis, je n'ai rien contre les hommes et les femmes qui sont là dans l'Église et qui se réunissent dans les Églises et qui sont sincères. Mais ceux qui sèment le poison, ils vont régler leur compte avec Dieu, les faux docteurs, les fausses doctrines. Ils vont régler ça avec Dieu. Alors, Nous voyons bien que dans Hébreux, il est clair, je ne me souviendrai plus de leur péché, de leur iniquité. Je mettrai dans leur esprit, dans leur cœur, une loi vivante. Ah, oui, oui, oui. Deuxième aux Corinthiens, les tables de pierre du Sinaï, c'est fini. Oui, les règlements de Dieu ne sont plus sur la table de pierre. Dès qu'on accepte Jésus, ils viennent autre part, s'inscrire automatiquement autre part. Deuxième aux Corinthiens, excusez-moi. Dieu déplace son Sinaï. Dieu déplace son Sinaï. Dieu déplace sa table de pierre. Nous sommes, c'est dans notre cœur que sont inscrits. Alors je le cherche, je l'ai vu au matin, je ne l'ai pas noté, c'est un petit peu dommage. Que nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit. Voilà, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Vous êtes manifestement, c'est-à-dire, il y a une manifestation en nous, hein, parce que nous, parfois, on lit les choses à notre façon. Hein. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, donc par la prédication de Paul, non avec de langue, mais avec l'Esprit Saint du Dieu vivant, sur des tables de pierre.
Non
sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc ça revient à ce qui est dit dans Hébreu et qui avait été dit par Ézéchiel. Donc pratiquement, quand Pierre prêche l'Évangile, il est en train d'écrire, sans il ne cherche pas la méthode de Dieu, c'est Dieu qui a la méthode, bon, il est écrit dans le cœur de la personne, la loi est vivante. Ce n'est plus un tas de pierre. Alors, chaque personne qui a accepté Jésus-Christ, qui a entendu la parole de Dieu, l'Évangile, a des marques indélébiles dans son cœur de ce qu'il doit faire, de ce qu'il doit faire pour être agréable à Dieu, pour faire sa volonté. C'est l'Esprit Saint. C'est ça, les nouvelles tables. L'Esprit Saint qui est là. Et lui, le directeur de conscience. C'est lui, le conducteur de notre conscience. Et donc, l'Esprit Saint donne la vraie loi. L'Esprit Saint donne le vrai sens de la vie. Et, Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes conduits pour nous comporter comme un enfant, un fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, c'est révélé par le Fils aux enfants, à ceux qui sont dans l'Esprit Saint. Ils sont devenus enfants, ils sont conduits, ils sont devenus des fils et des filles de Dieu. L'adoption est faite. En plus, il y a l'esprit d'adoption, l'obéissance. Regardons dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. L'obéissance n'est pas spontanée. Ne croyez jamais. Soit elle est spirituelle, soit elle n'est pas. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 21. À 23. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Marc, chapitre 7, verset 21 à 23. C'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Donc elles le dégradent. Et elles dégradent l'entourage avec. Si l'Esprit Saint est donné, c'est parce que l'état spirituel de l'homme le réclame. L'état spirituel de l'humanité le réclame que le don de Saint-Esprit soit donné. C'est pas pour rien qu'il est donné. Pas une fantaisie de Dieu. C'est parce que c'est foutu sans l'Esprit Saint. C'est foutu. Donc, il est absolument nécessaire, quand Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître de nouveau. C'est indispensable. On ne s'est pas passé à côté. L'obéissance est travaillée dans notre cœur. L'esprit d'obéissance est poussé, mu par l'Esprit Saint. Alors, dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Mais si j'ai des péchés alors, si j'ai encore des péchés alors, l'Esprit Saint n'est pas là. Ah, c'est pas vrai. J'ai une nature pécheresse, je l'ai confessée à Dieu, elle est vaincue à la croix. Le péché est condamné. Je ne suis pas rejetable par Dieu. Mais ce qu'il y a, je plais à Dieu, parce que j'ai déposé mon péché. J'ai reconnu que Jésus l'avait porté pour moi à la croix. Et maintenant j'ai reçu l'Esprit Saint pour mener le combat victorieux sur le péché. Jésus l'a bien dit, qu'il était venu pour les pécheurs, pour les malportants. Et l'apôtre Jean, dans sa première épître, l'a dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs sauvés. Et les pécheurs ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas avec Jésus. Les pécheurs sauvés, ben, les pécheurs assistés, dirigés, conduits par le Saint-Esprit, pour ne plus rompre avec Dieu, vivre sans lui délibérément. Mais parfois le péché revient, et parfois, souvent, chez les chrétiens, on confond la tentation du péché avec le péché. Ah, j'ai des combats, je suis tenté, on ne dit pas je suis tenté, j'ai des combats, etc. Oui, c'est vrai, mais parce que le tentateur, il n'a pas été mis encore dans les temps de feu et de soufre, le tentateur, Satan, et toute sa bande avec lui, ils agissent quand même. Le tentateur et tous ses copains viennent nous tenter, évidemment. Donc, il y a un effet sur nous qu'on appelle la tentation. Parfois, c'est un goût de péché, je le ferai bien, c'est pas plus mal. Oh, Dieu n'y verra rien. Oh, pour une fois, je peux bien payer ça. Et puis si je tombe sur quelqu'un qui me dira, c'est pas grave, c'est pas un péché. Allez, soulage-toi, fais-le. Bon, tout ça, c'est le démon qui nous encourage. Regardons devant la tentation. Aucune tentation pour un vrai enfant de Dieu ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Elle est humaine. Et Dieu qui est fidèle, ça veut dire que Dieu, lui, n'est pas tenté. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Regardez bien que le berger va rechercher sa brebis perdue. Regardez bien que Jésus est venu repêcher, reprendre sur le lac, dans la barque, Pierre qui l'avait trahi trois fois. Donc, il préparera aussi le moyen d'en sortir. L'amour de Christ est fidèle envers son disciple. Si Judas ne s'était pas pendu, je suis certain que Jésus allait le rechercher et le remettre dans le groupe. Parce que Jésus ne se trahit jamais. Il est l'expression du pardon, de la miséricorde. C'est Judas qui n'y a pas cru, qui s'est pendu, qui a fermé les portes. La tentation fait partie de notre vie. Mais sachez bien que le berger, le gardien de nos âmes, est supérieur à notre tentation. Et qu'il a les moyens de nous ramener à lui. Pas pour ça qu'il faut se payer une bonne tranche. Hein? Pas pour ça qu'il faut s'amuser à se moquer de Dieu. Romains 15, verset 4. Oui, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance, tout ça, la Bible, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le don, quand on lit régulièrement la Bible, les amis, c'est important. C'est pas parce que, je vous le dis, ça donne la patience et la consolation quand on lit la Bible. Dans l'adversité, dans le combat contre les tentations, contre notre péché, et pour aider les autres dans leur péché, dans leurs tentations, ça donne la consolation et la patience. Et ça nous donne, ça nous fait une possession forte, l'espérance. L'espérance de quoi ? La certitude d'être enfant de Dieu. La certitude d'arriver au bout du chemin, d'être dans la gloire de Christ, de lui devenir semblable. Ne perdez jamais courage. L'obéissance est possible à travers l'onction du Saint-Esprit. L'obéissance est possible, même si elle paraît impossible, à travers la miséricorde divine de Jésus-Christ qui vient, qui aime ses brebis, qui aime ses enfants. Amen.